Résonance sur Radio B. Alain Goudard, bienvenue à toutes et à tous. Une émission réalisée et mise en onde par Simon Deborne. Ce que renvoie violemment la pandémie en cours, c'est que nos sociétés de confort, souligne la philosophe et psychanalyste Hélène Leuillet, ont oublié que la vie est une perturbation permanente. Fin de citation. Une telle situation suscite de nombreux questionnements et interrogations, tant sur ce que nous vivons dans le temps présent que par rapport à ce que serait l'après-Covid-19. Le philosophe Tsvetan Todorov soulignait quant à lui l'importance de comprendre les événements qui nous bouleversent. Fin citation. En effet, s'interroger sur l'actualité immédiate et sensible sur le plan politique, social, et en même temps mener une réflexion historique et culturelle avec davantage de recul et de distance critique paraît aujourd'hui urgent et essentiel. Comme il paraît pertinent de pouvoir combiner ces deux approches. Que ce soit l'homme de la rue ou les intellectuels de tous horizons, on perçoit très fortement chez chacun de nous ce besoin, cette nécessité de comprendre, de réfléchir sur les questionnements que suscite la pandémie en cours. En premier lieu, cette pandémie nous rappelle notre vulnérabilité individuelle et collective, notre fragilité corporelle, comme la fragilité de la condition humaine. En second lieu, elle bouscule, questionne nos certitudes, nos modes de fonctionnement et met en lumière de manière criarde la crise du modèle néolibéral. Face à cette pandémie, c'est l'ensemble de notre système qui est ébranlé, sanitaire, politique, économique et démocratique. Cette période de confinement non choisie que nous traversons, que nous vivons, nous renvoie, nous confronte à l'espace, au temps, à nous-mêmes, à notre solitude, à la notion d'enfermement et nous invite à interroger ce que peut être l'essentiel dans notre vie. Pour Edgar Morin, le confinement pourrait être une opportunité de détoxification mentale et physique qui nous permettrait de sélectionner l'important et rejeter le frivole, le superflu et l'illusoire. Fin de citation. La pensée comme la critique sociale que Walter Benjamin développait constitue plutôt une constellation de pensées qui peuvent contribuer à nourrir nos réflexions d'aujourd'hui. Il s'intéresse aux seuils, aux limites, aux frontières invisibles, aux discontinuités du temps et de l'espace. Il observe l'émergence de la diffusion massive des marchandises, devenues les fétiches des sociétés de consommation où l'authenticité n'a plus cours. Sa critique du progrès, décrit Agnès Sinaï dans son ouvrage Walter Benjamin face à la tempête du progrès, sa conception de l'histoire à contre-temps, sa perception de la démesure planétaire inaugurée dans le déluge de bombes de la Première Guerre mondiale font de Walter Benjamin un veilleur qui cherche à recueillir les lambeaux d'une civilisation se décomposant sous ses yeux. Tour à la marge, il ne s'est jamais vraiment reconnu dans les grands systèmes d'interprétation du monde de son époque. Fin de citation. Walter Benjamin, un veilleur, un lanceur d'alerte. D'autres veilleurs, des personnalités inattendues aujourd'hui, prennent la parole, font entendre des points de vue et viennent nourrir les débats qui doivent impérativement se tenir au cours de la nouvelle phase que nous nous apprêtons à traverser. Des points de vue qui nous alertent des dangers que cette pause forcée risque de générer, notamment la pause forcée des productions culturelles qui va rompre l'équilibre délicat sur lequel elle reposait. Et là, il y a un réel danger.
C'est incroyable. incroyable ce qu'il peut être fédérateur de partager des solitudes. Alors que le monde est bouleversé par un vacarme calme et sourd, d'îlots en atolls, comme archipéliques, des voix s'élèvent, se rencontrent et résonnent ensemble pour juguler l'isolement viral. Dans une synchronicité forcée, nous revenons au dénominateur commun, à l'essentiel, au vital, à l'instinctif. Éclate alors de partout cette créativité parfois endormie par nos vies tumultueuses, comme le plongeon soudain d'un galet qui viendrait troubler l'eau, habituée à suivre un cours qu'elle n'aurait pas choisi. L'impact du vacarme rayonne comme l'effet papillon d'un battement d'ailes. Quand l'impossibilité devient un bonus. La distorsion du temps suspend nos souffles, puis nous inspire. Inspirer, s'exprimer. Le battement d'ailes reprend de plus belle, nourri de cette pulsation de vie, cette inhérence des hommes à la nature, de la nature à l'univers, de l'infiniment petit à l'immensité, de l'impact au rythme et de la vibration au changement. Le battement vital semble ainsi trouver, dans cet élan d'inventivité, une libération.
Toucher, étreindre, effleurer, embrasser, jouer, caresser, respirer, regarder, deviner, saisir, festoyer, s'adresser, goûter, chatouiller, porter. Interdit, pas permis, irresponsable, criminel, nous voilà confinés, grondés, sommés, embobinés, infantilisés et pas rassurés. Un virus banal comme l'humanité en combat depuis l'aube des temps, qui semble moins dangereux que la peste, le choléra, la variole, le sida, Ebola, le paludisme, a mis notre planète chaos. Pourquoi ? Nous voilà privés de l'un de nos besoins les plus élémentaires, celui de créer du lien. Nous avions déjà empoisonné nos aliments, pollué l'air que l'on respire, endommagé notre environnement, et maintenant, voilà que notre besoin de rencontre est en danger. Le libéralisme triomphant, depuis la chute du mur de Berlin, avec arrogance et brutalité, a détruit tout ce qui gênait le profit immédiat. Nos protections sociales et notre système de soins basé sur la solidarité ont été petit à petit démontés. Nos hôpitaux et ses soignants n'ont pas eu les moyens de faire face. Notre gouvernement gère le manque. Nous dit que nous ne sommes pas disciplinés, pour ne pas dire qu'il est en grande partie responsable de la catastrophe. Je suis en colère. Être confiné pour moi a été simple. J'ai pu continuer à travailler. Mon appartement est suffisamment grand. J'ai découvert mon quartier et j'ai beaucoup lu. Mais je n'ai pas vu mon amoureuse qui habite loin. Je n'ai pas pu consoler mes parents après la mort de mon oncle. Notre famille n'a pas pu se réunir, se consoler, vivre sa douleur ensemble. Un ami très cher est aussi parti. Pour sa crémation, nous étions 10. Lui qui avait tant d'amis. Je suis en colère. J'ai peur que rien ne change dans le monde d'après. Au pire, que la peur nous pousse à accepter l'inacceptable. Demain, allons-nous continuer à soutenir un système qui détruit notre humanité ? Allons-nous seulement nous contenter de survivre? Ou bien allons-nous parler, échanger, imaginer, inventer, étudier, envisager, essayer, chercher, vérifier, clamer, manifester, orienter, créer, affirmer, lutter, aimer, rire, vivre?
Déjà un mois de passé, ce virus étrange et inconnu au bataillon, qui s'est invité sur notre terre, qui nous a obligés à rester chez nous et cesser toute activité, qui a basculé tout un monde dans un confinement strict du jour au lendemain, qui a changé notre façon de vivre. Pour moi, c'est un peu dur de vivre ce confinement, car il me coupe de tout contact avec le monde. Mes amis, ma famille, comme si on ne contrôlait plus rien. Tout allait s'arrêter. Tout me semble éphémère. Je me demande aussi comment on va sortir de ce confinement. Dans quel état ?
Résonance sur Radio B, les projets artistiques et scientifiques les plus exigeants, ni consommables, ni utiles à brève échéance, sont en danger. Témoignage de Jean-Pierre Barbosa, Da Silva éducateur, sur le confinement. Témoignage d'Asma Houban, jeune femme résidente à Bourg-en-Bresse, qui témoigne sur son ressenti du confinement. Il y a quelques instants, je citais les propos d'Edgar Morin par rapport au confinement, et celui-ci indiquait que ce moment nous permettrait de sélectionner l'important et rejeter le frivole, le superflu et l'illusoire. Dans cette idée de rechercher, de se concentrer sur l'essentiel, je souhaiterais vous proposer d'écouter un extrait d'une œuvre du compositeur André Boukho-Rechlieff qu'il a imaginé pour une formation spécifique, le quatuor à cordes. Pourquoi ce choix du quatuor à cordes ? Il dit ceci, « On se trouve face au quatuor dans la nudité, celle du son, de quatre lignes pures et frêles et celle de soi-même. » Fin de citation. Il emprunte ce chemin à travers sa recherche compositionnelle qui, comme le confinement, nous renvoie à nous-mêmes, à notre solitude et nous invite à interroger ce que peut être l'essentiel dans notre vie. Le quatuor à cordes, poursuit-il, est une des formes supérieures de l'expression musicale. L'esprit créateur s'y dépouille de tout ce qui n'est pas sa vérité profonde. Sa loi est celle de l'absolue concentration. Il bannit l'emphase, l'effet, la virtuosité gratuite et requiert la maîtrise totale de la matière et de la construction. Fin de citation. Alors, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir maintenant un extrait de Miroir 2, une œuvre écrite en 1989, et notamment de découvrir le quatrième mouvement d'un cycle de cinq pièces pour quatuor à cordes composé par le compositeur André Boukho-Rechlieff, interprété ici par le célèbre et prestigieux quatuor Isaïe. Le philosophe Pierre-Henri Castel observe pour sa part que la haute science et la haute culture vont se heurter à un test crucial de viabilité au cours des prochaines semaines et mois. Il poursuit en disant que Stéphane Audouin-Rousseau parlait, il y a quelques jours, d'une démonétisation redoutable et gigantesque des savoirs du monde d'avant. Il a bien raison. Ce qui n'est pas consommable à bref échéance, ce qui ne satisfait même pas aux besoins de distraction, et pas davantage aux contraintes de la production industrielle et commerciale, bref, ce qui n'est pas pensable en termes d'investissement, voilà ce qui est en danger. On doit se préparer à l'idée de vivre dans un monde sans théâtre, sans galerie d'art, sans librairie, où ne pourra survivre que le loisir culturel industrialisable. Fin de citation. Résonance sur Radio B, les projets artistiques et scientifiques les plus exigeants, ni consommables ni utiles, à brève échéance, sont en danger. Et là, nous venons d'entendre un moment de musique improvisée avec Lee Kuan Yin, intitulé « No one to say anything about this ». Un solo enregistré en 1995 au studio CCAM de Vendeuvre-lès-Nancy, l'endroit merveilleux de musique-action qui mène toujours tout un travail tout à fait pertinent justement dans tous ces moments de recherche, d'expérimentation et de création musicale. Et cet extrait de l'album Musique-Action 2. Voilà, donc... On peut évoquer en quelques mots justement le parcours de ce percussionniste qu'est Lee Kuan Yin et qu'il mène depuis les débuts des années 80. Il mène une activité musicale partagée justement entre interprétation de la musique contemporaine et improvisation libre. Il a été le membre fondateur du quatuor Helios, ensemble de percussions. Il a également fondé avec la violoncelliste Martine Altenburger l'ensemble Hiatus, un ensemble de musique contemporaine dont ses membres sont à la fois interprètes et improvisateurs. Il est également conseiller artistique de l'association Roani et du festival Le Bruit de la Musique, qui développe en Limousin principalement, mais aussi bien au-delà, un travail de création, de sensibilisation et de transmission consacré à la création contemporaine. Lorsqu'il évoque sa pratique de l'improvisation, Lee Kuan-yin souligne qu'il y a comme un devoir de solidarité qui est un devoir de présence, avec ce préalable que tout le monde doit pouvoir compter sur chacun, sur ses capacités à investir le matériau qui n'existe pas sans cette présence. Mais cette présence ne doit pas être confondue avec une obligation de faire. Par présence, j'indique une présence perceptive, celle par qui le matériau est lâché, par la volonté pour être accueilli comme immémorial, là où le geste et l'immobilité ne sont plus opposés, mais sont deux aspects d'une même nécessité. Fin de citation.
The cuckoo sat in the apple tree, cuckoo, raining or snowing, not cared he, cuckoo, 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 not cared he, cuckoo. The cuckoo flew over her house top high, cuckoo.
Dear, are you at home? For here am I,
cuckoo, 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 here am I, cuckoo. I dare not open the door to you, cuckoo. Perhaps you are not the right cuckoo.
comes tumbling down in the country or the town.
All good little cows and white
spirits down.
Will you walk a little faster?
Said a white
rooster. Will you walk a little faster?
Said
a there's a porpoise close behind us.
Trees
and snake on my tail.
Faster, said.
See how he can take the lobsters and the jack.
There's a porpoise close behind us.
See how he's
heading on
the
shite.
Will you cut him there and drop the dust?
There's a porpoise close behind us.
It's carried, we have no notion how delightful it will be.
A little faster.
When they take us up and throw us,
we
can help to set the sail.
Little faster, night.
To step walk. And then the longer scouts.
And one, two, back to the same walk.
But little faster,
it would be.
There's a lot of those behind us.
There is another shore, you know, up on the other side.
But why do you call it
very sad?
mother's bed. She met in the house of the girls and the bed. I say it to the mighty good in our but we must have a trial.
Résonance sur Radio B, les projets artistiques et scientifiques les plus exigeants, ni consommables ni utiles, à brève échéance, sont en danger. Et là, nous venons d'entendre Nonsens Madrigal, une œuvre écrite entre 1988 et 1993, composée par le compositeur hongrois Györky Ligeti, 1923-2006, et l'a interprétée également par le magnifique, vraiment extraordinaire ensemble vocal que sont The King Singers. Et là, nous avons pu entendre successivement Deux rêves et petites chauves-souris, ensuite Coucou dans le poirier, ensuite L'alphabet, puis Flying Robbers, ensuite le quadrille du homard, et enfin un long récit sad. Györky Ligeti nous donne quelques indications sur ce que nous venons d'entendre. Et il écrit la chose suivante pour présenter cette pièce. La caractéristique principale de la technique de composition que j'ai employée dans ces pièces et qui peut en rendre difficile la première audition est une certaine qualité de complexité technique. Ma technique consiste à entremêler deux traditions polyphoniques très différentes l'une de l'autre. D'une part, la notation mensuraliste du XIVe siècle, de l'autre, la polyrythmie africaine. Cependant, la complexité rythmique n'est pas une fin en soi. La mélodie, l'harmonie, le rythme et particulièrement la simultanéité de plusieurs lignes mélodiques sont des moyens pour exprimer un contenu émotionnel. Toutefois, ce n'est pas vraiment la signification des textes qui est exprimée, mais les connotations poétiques qui tournent autour de ceux-ci. Ainsi peut-on écouter ces madrigaux comme des constructions virtuoses, purement techniques, ou comme des messages chargés d'expression. Dans les deux cas, c'est du non-sens. Györky Ligeti. Maintenant, nous continuons avec un témoignage sur le confinement de la part de Mathieu Convert, usager de l'ESAT de Tréfort, qui dépend de la DPI de l'Ain. Quand le directeur de l'ESAT nous a parlé du confinement, ça m'a fait bizarre. Sur le coup, je me suis posé quelques questions sur comment va se passer cette période, alors que l'on s'était préparé avant et puis aussi de ce qu'il va nous arriver dans les prochaines heures. Pour moi, le confinement s'est passé chez mes parents, à la campagne. Quand je vois, aux informations, à la télé, le nombre de personnes dans le pays touchées par l'épidémie, le nombre de personnes décédées et d'autres personnes qui s'en sont sorties, quelque part, ça fait peur. C'était un témoignage de Mathieu Convert. Témoignage à présent de Christian Seux, résident du foyer d'hébergement ADAPI de l'Ain, ESAT de Tréfort. Témoignage sur comment celui-ci a vécu le confinement.
Bonjour, donc je suis en plein confinement. Enfin, on est en plein confinement. Et ça se passe que voilà, pour faire nos courses, et ben, c'est les éduques qui le font. Nous, on ne peut pas sortir. À part aux alentours du centre, c'est tout, mais autrement, non, on peut pas sortir, donc ça, c'est ce qui est gênant. Pour moi, je ressens un manque de liberté. J'aimerais bien voir les autres à l'extérieur, pouvoir discuter, quoi. Puis être plus libre, quoi. Et ça, des fois, ça me tape sur le système. Ça me travaille par moments, mais je souhaite bientôt qu'ils trouvent un vaccin, qu'on soit immunisé, qu'on soit bien, quoi, qu'on puisse sortir, que tout aille pour le mieux, quoi. Voilà ce que je voulais dire.
Oh.
Résonance sur Radio B, la création artistique, les projets les plus exigeants, ni consommables ni utiles, à brève échéance, sont en danger. Et là, nous venons d'entendre souffler une pièce improvisée d'un ensemble belge qui s'intitule The Ride Classical Music Ensemble. Et il s'agit là d'un projet musical qui a commencé en 2007, le jour où Damien Magnette, musicien, plasticien sonore, expérimentaliste, rencontra Lynn, Johan, Rudy et Kim, quatre artistes ayant un handicap mental. Depuis le début, les recherches musicales sont basées sur l'improvisation libre et l'expérimentation. Dernièrement, le The Wild Classical Music Ensemble a commencé à intégrer des riffs punk rock composés par Kim Verberke, le guitariste du groupe. Cet élément a donné une nouvelle impulsion au groupe et l'a mené vers ce qui est à présent un mélange entre rock, punk, noise et musique improvisée. En tout cas, j'espère que vous avez pu vous laisser pénétrer par cette atmosphère pleine d'énergie et qui dit aussi cette urgence également de l'expression, l'importance de justement d'expression et de liberté de cette expression. Alors nous arrivons au terme de notre émission d'aujourd'hui et pour conclure celle-ci, je vous propose de retrouver les propos du philosophe Pierre-Henri Castel dont je vous citais certains propos tout à l'heure. Et là, il nous dit ceci: un risque moral sérieux serait aussi de s'illusionner sur le besoin de culture, entre guillemets, que ferait renaître le déconfinement. Les tables des librairies ou les salles de cinéma seront inondées, à moyenne échéance, de productions qui collent aux angoisses immédiates des gens, cela ne fait aucun doute. Mais de là à créer quelque chose qui se fixe pour le futur, forme une mémoire collective qui constituera une ressource morale pour les crises à venir, car la mémoire collective, c'est bien plus que l'addition des mémoires individuelles. C'est un principe de familiarité et d'accord des esprits qui, à la fois, exige des symboles partagés et permet qu'on en invente de nouveaux. Or, cela n'a rien à voir avec les loisirs culturels. Et, bien sûr, cela n'a pas sa place dans les tuyaux des distributeurs de contenu. Fin de citation. Cette émission de Résonance sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis le dimanche de 20h à 21h. Vous pouvez bien sûr écouter, réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez, la présente émission à l'antenne ou en podcast, soit sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Vous pouvez également nous communiquer vos commentaires sur la page Facebook de Résonance Contemporaine. J'attire également votre attention, si vous avez envie de découvrir d'autres musiques d'aujourd'hui, que vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine ou sur notre page Facebook pour découvrir la playlist de ce mois de mai. Portez-vous bien, continuez de prendre soin de vous et à très vite sur Radio B.